Domingo, domingo, catene, catene.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est une avancée juridique majeure. La Cour d'appel de La Haye aux Pays-Bas a confirmé la victoire sans précédent de la fondation Urganda et de 886 citoyens qui ont attaqué leur gouvernement pour son manque d'action contre le changement climatique. Le tribunal a ainsi confirmé que l'État doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2020 par rapport à 1990. Ne pas atteindre cet objectif serait une violation des droits des citoyens néerlandais protégés par la Convention des droits humains, a conclu la justice. Lorsque l'on sait que plus de 900 plaintes du même genre ont été déposées dans le monde, c'est une véritable boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir. Un heureux hasard du calendrier, la semaine où le GIEC vient de publier un nouveau rapport qui rappelle l'urgence d'agir. Un calendrier qui a sans doute échappé à François de Rugy, le ministre français de la transition écologique, qui, lui, était au Mondial de l'automobile le jour même de la sortie du rapport.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous avons parfois l'impression d'observer une tragédie grecque dans le sens où vous savez ce qu'il va se produire et vous voyez les choses se produire, confessait fin septembre la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail sur les sciences du climat du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui a publié lundi un rapport très attendu sur ce que sera notre monde si nous assistons à un réchauffement de 1,5 degré par rapport à la période précédente. Industrielle. La marge de manœuvre est mince car le climat de notre planète s'est déjà réchauffé de 1 degré en moyenne depuis 1880, un phénomène qui affecte d'ailleurs déjà les écosystèmes et les sociétés humaines dans la plupart des régions du monde. Alors un demi degré de plus ou de moins, ce n'est rien, me direz-vous. Eh bien si, justement, cela change tout. Bonjour Henri Wesmann.
Bonjour.
Vous êtes chercheur senior au sein du programme Climat de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et vous êtes l'un des 86 coordinateurs de ce rapport. Vous êtes en ligne avec nous depuis Séoul, puisque c'est en Corée que ce rapport a été débattu et dévoilé. Alors il faut peut-être tout d'abord expliquer que c'est un travail colossal qui avait été commandé par 195 pays en 2015.
Tout à fait. La naissance de ce rapport, c'est la COP21. Où cet objectif de 1,5 degré a été inscrit dans l'accord de Paris. Et en parallèle de ça, la conférence des parties qui fait l'accord de Paris a invité le GIEC, donc le panel intergouvernemental d'experts sur le climat, à produire un rapport sur ce sujet du 1,5 degré pour 2018. Alors pourquoi ce sujet et pourquoi cette date? Tout simplement parce qu'à l'époque, la connaissance scientifique sur le sujet du réchauffement climatique à 1,5 degré était extrêmement limitée, voire inexistante dans beaucoup d'aspects, parce que le cadrage des ambitions était plutôt autour d'un objectif de 2 degrés. Et donc il y avait un vrai besoin de production scientifique et d'une meilleure compréhension de ce qu'impliquait cet objectif de 1,5 degré pour être capable de le traduire dans des mesures concrètes. Pourquoi la date de 2018? Parce que dans le processus de l'accord de Paris, il y a notamment ce moment qui est ce qu'on appelle maintenant le dialogue de Talanoa, qui est un dialogue collectif dans lequel les États doivent faire le premier bilan de l'action et essayer de comprendre quelles sont les actions collectives qu'il doit mettre en place. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, la CNUC, donc l'instance des Nations Unies chargée des négociations sur le climat, se retourne vers la communauté scientifique et lui demande de fournir des informations qui sont destinées à directement influencer le processus politique.
Un rapport qui, au passage, est quand même une prouesse scientifique. Hein.
On n'a jamais eu un rapport produit par un ensemble de disciplines aussi variées qui vont de la physique du climat aux sciences sociales, aux analyses quantifiées de mitigation, aux analyses d'impact et des experts de différents écosystèmes. Mais c'est aussi un rapport qui a été produit dans un laps de temps extrêmement resserré puisque la première réunion d'auteurs a eu lieu seulement en mars 2017. Donc c'est en un an et demi que tout ce travail a été fait. Et surtout, comme c'est un sujet émergent, dont la littérature a été construite en parallèle de la production du rapport, finalement, ça a conduit à des révisions très significatives des différentes versions du rapport au fur et à mesure que ces articles, ces preuves scientifiques s'accumulaient grâce à l'accélération de la production.
Et l'une des principales conclusions de ce rapport, c'est qu'un demi degré de réchauffement de plus ou de moins, eh bien ça change tout.
Absolument. Un des objets de ce rapport-là, c'était justement de réussir à quantifier le plus précisément possible qu'est-ce que ça change sur tout un ensemble d'écosystèmes, d'aller vers un objectif à 1,5 degré plutôt que d'aller vers un objectif à 2 degrés. Finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier d'aller vers ce type d'objectif encore plus ambitieux que l'objectif de 2 degrés? Pour donner quelques exemples, si on va à un objectif de 2 degrés au lieu de 1,5 degré, la montée du niveau de la mer sera environ 10 cm plus élevée. On peut se dire que 10 cm, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire environ 10 millions de personnes en plus exposées aux dommages et aux risques de la montée du niveau de la mer. Il faut dire quand même que même à un niveau de 1,5 degré, il y a quand même des effets importants liés à ces effets du niveau de la mer. Donc on ne résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, on essaye d'en limiter les effets. Un autre exemple, les défis posés par l'accès à l'eau, dont on sait qu'ils sont très importants dans le cadre de changements climatiques en cours. On estime qu'environ 50% de personnes en moins seraient victimes de coupures d'eau ou de manque d'accès à l'eau dans un scénario à 1,5 degré par rapport à un scénario à 2 degrés. Donc avant tout, c'est une histoire humaine de donner à toutes les populations du monde la possibilité de se développer dans des meilleures conditions. Et ça, c'est fondamentalement plus facile dans un monde à 1,5 degré qu'un monde à 2 degrés.
Oui, parce que quand vous parlez de plusieurs centaines de millions de personnes plus ou moins exposées en fonction du réchauffement, ce sont bien sûr, comme toujours, j'ai envie de dire malheureusement, les plus vulnérables qui sont concernés.
Donc ce sont les plus vulnérables, les plus pauvres. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette histoire-là n'est pas une histoire de pays en développement seulement. C'est une histoire de tout le monde. Des pauvres et des vulnérables, il y en a dans tous les pays. Et c'est aussi ça que l'analyse prend en considération de façon importante, c'est que c'est un sujet, le 1,5 degré, qui est un sujet qui concerne tous les pays, qui nous concerne tous. On en voit déjà les effets dans tous les pays, y compris dans les pays industrialisés, qui souffrent beaucoup du type d'impact qu'on peut estimer va s'aggraver si on continue le changement climatique. Et donc, ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont touchés dans tous les pays à travers le monde, avec des défis de nature différente suivant les régions. Évidemment que les pays en développement sont particulièrement exposés à ce type de dommages, mais c'est aussi un sujet qui est valable pour les pays industrialisés.
Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, la bonne nouvelle de ce rapport, c'est que l'on peut encore limiter le réchauffement du climat de notre planète à 1,5 degré, mais ça implique des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société, hein, énergie, industrie, gestion des terres, bâtiments, transport, urbanisme, c'est un changement radical de comportement et de mode de vie. Quels sont les principaux leviers d'action ?
Effectivement, on parle vraiment de changements systémiques dans tous les systèmes et concrètement de décroître d'environ 45% les émissions globales à l'horizon 2030 par rapport au niveau d'aujourd'hui. Donc, comment faire ? Eh bien, en fait, c'est justement maintenant le moment où on va passer la main aux décideurs qui vont pouvoir s'approprier le type de transformation qu'on leur met dans la main, parce que le changement fondamental qui doit s'opérer, c'est l'adoption de stratégies par l'ensemble des pays qui permettent d'opérer le type de transformation qu'on a été capable de caractériser à l'échelle globale sur l'ensemble des systèmes que vous avez listés, mais de les traduire dans des transformations concrètes ancrées dans les réalités de chacun de ces pays. Et donc, il n'y a pas une solution unique qui va émerger, mais c'est au contraire à travers la mobilisation d'un ensemble de solutions dans l'ensemble des systèmes, d'instruments politiques et d'incitations qui ne soient pas un seul instrument, mais qui soient au contraire une combinaison d'instruments qui permettent à la fois d'induire ces changements fondamentaux, structurels et dans chaque économie, mais tout en préservant la possibilité aux populations de se développer. Parce que si on ne fait pas ça en prenant attention aux potentiels risques que font courir ces politiques ambitieuses de transformation sur le développement, on risque d'avoir des effets négatifs en retour. Et donc l'objectif, c'est d'inviter les gouvernements à se saisir des conclusions pour construire les stratégies précises, concrètes, qui leur permettent d'opérer les transformations dont on est en train de parler.
Alors il y a des stratégies que l'on connaît évidemment, il faut arrêter d'utiliser les énergies fossiles, mais on se rend compte que ça ne va pas suffire. Dans le rapport, il est mentionné qu'il va peut-être falloir avoir recours aux émissions négatives. Alors, il s'agit de quoi ?
En fait, les émissions négatives, c'est toutes les solutions qui permettent de retirer du carbone de l'atmosphère. Puisqu'en fait, le problème du changement climatique, c'est un problème d'accumulation de gaz à effet de serre et notamment de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et il y a des solutions qui peuvent permettre d'en retirer une fois qu'il a été émis. Donc, les deux principales familles de solutions qui sont considérées sont des solutions liées à la forêt, afforestation, reforestation. Donc, très concrètement, quand on plante un arbre pendant sa phase de croissance, finalement, l'arbre capte du CO2 et donc le CO2 n'est plus dans l'atmosphère, mais il est dans l'arbre. Et la deuxième solution qu'on peut considérer, en tout cas qui est considérée par le rapport, c'est une technologie qu'on appelle BECS, par son petit nom, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, qui est concrètement une solution pour produire de l'électricité à partir de biocarburants, et donc de produire des biocarburants, de les brûler dans une centrale pour produire de l'électricité, et de capter les émissions résiduelles pour les réinjecter dans le sol au lieu de les laisser aller dans l'atmosphère. Donc ce que montre le rapport, c'est que tous les scénarios ont besoin de solutions à émissions négatives, mais ils en ont besoin à des niveaux très différents et avec des besoins très différents sur les types de technologies qu'on doit mobiliser.
Alors quels sont, en dehors de ces émissions négatives, les principaux leviers d'action justement pour agir vite ?
On a déjà des transformations qui sont en cours, des transformations qui étaient insoupçonnées et inattendues si on se reporte 10 années en arrière. L'exemple le plus évident, c'est certainement le développement de l'énergie solaire, qui est à peu près compétitive par rapport aux énergies conventionnelles. Ce dont on parle, c'est de développer de façon accélérée l'ensemble des solutions dont on a besoin pour promouvoir des carburants qui n'émettent pas de carbone, pour permettre de changer l'utilisation des types d'énergie dans nos usages finaux et pour être capable de faire de l'efficacité énergétique à grande échelle, pour ne parler que du système énergétique. Ça demande, quand on regarde l'ampleur des défis qu'on considère, ça demande justement d'adopter une vision systémique de ces transformations. Pour prendre l'exemple du transport, par exemple, la décarbonation du secteur du transport tel qu'elle doit être considérée dans un scénario à 1,5 °C, évidemment, ça passe par des solutions technologiques avec des véhicules plus efficaces. Évidemment, ça passe par des solutions d'utilisation d'autres carburants, par exemple des véhicules électriques, par exemple des véhicules à biocarburants. Mais ça passe aussi par des transformations structurelles, des usages qu'on veut faire du transport. Et c'est pour ça que le rapport se focalise pas seulement sur les secteurs, mais sur les transformations des systèmes, et là en l'occurrence sur la transformation des systèmes d'infrastructures et des systèmes urbains, qui sont des déterminants fondamentaux de nos besoins énergétiques pour satisfaire nos services, et qui doivent faire partie de l'ensemble des transformations à l'œuvre si on veut atteindre un objectif comme celui du 1,5 °C.
Donc on l'a bien compris, ce rapport qui a d'ailleurs été adopté en Corée par les représentants de plus de 180 pays aujourd'hui oblige un petit peu les États à agir, mais pour l'instant la mobilisation n'est pas du tout à la hauteur puisque selon un récent rapport, un autre rapport, il y en a beaucoup en ce moment, de l'OCDE, l'ONU Environnement et le groupe de la Banque mondiale, on apprend que sur les 180 signataires de l'accord de Paris, seulement 9 ont soumis aux Nations Unies des programmes concrets pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et ce rapport rappelle aussi que les gouvernements continuent de consacrer près de 500 milliards de dollars par an pour subventionner le pétrole, le charbon et le gaz. Donc Henri Wesmann, on a d'un côté un rapport de scientifique qui nous dit on peut encore agir pour éviter la catastrophe mais il faut faire vite, et un autre qui pointe l'inaction. C'est schizophrénique un peu, non ?
Au contraire, c'est la logique même du rapport qui a été produit aujourd'hui, parce que le fait qu'il ait été demandé par les gouvernements et que les gouvernements aient été associés au processus montre qu'il y a un vrai intérêt de leur part. Et peut-être que finalement ces gouvernements attendaient simplement d'avoir des informations concrètes et détaillées sur de quoi on parle concrètement quand on parle d'un objectif à 2 degrés, quand on parle d'un objectif à 1,5 °C, quel type de transformation on doit faire. Et effectivement, l'enjeu fondamental maintenant, c'est de voir se traduire ces recommandations, ces indications, ces informations qui sont produites par le rapport à partir d'une vision globale, de les voir se traduire, de les voir s'incarner dans des stratégies concrètes que les pays vont devoir déterminer. Et on est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui. La décision va se faire sur les 2 prochaines années. On a ce dialogue de Talanoa, cette COP24, où il va être intéressant de voir comment le rapport et les indications qu'il donne affectent la façon dont la discussion, notamment sur la coopération internationale et les dimensions collectives de l'effort, est structurée.
Donc
et
ça, ce sera en décembre en Pologne ?
Tout à fait, en décembre en Pologne, où les États vont se réunir comme tous les ans, mais avec un objectif un objectif très important, prévu par l'accord de Paris, de faire un point de bilan de où ils en sont et d'évaluer comment avancer pour réviser leur contribution nationale. Donc ça, c'est la deuxième étape, le deuxième étage de la fusée, qui est, à 2020, de soumettre des révisions de leur contribution nationale. Le rapport du GIEC publié aujourd'hui, est très clair sur le fait que c'est insuffisant, ces contributions sont insuffisantes pour atteindre un objectif à 1,5 degré. Et donc on attend de voir comment les gouvernements vont pouvoir se saisir des indications du rapport pour les traduire dans des plans concrets et notamment dans des contributions nationales révisées à l'horizon 2020. Mais au final, le vrai moment de vérité, c'est le moment où on va voir si les indications qui sont fournies par les chercheurs et qui, encore une fois, ont été demandées par les gouvernements, sont prises au sérieux et sont intégrées dans les plans. C'était ça la logique. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a aucune raison d'en douter. Maintenant, au gouvernement de jouer.
On a quoi? On a 10 ans?
On a beaucoup moins que ça, parce que si on veut transformer les trajectoires à l'horizon dont on parle, ce n'est pas en 2029 qu'on va descendre de 45% les émissions en 2030. Donc c'est une transformation qui doit s'opérer dès maintenant, et c'est pour ça que dans les deux prochaines années, on doit voir des signaux de la prise en compte du type de messages qui sont délivrés par le rapport, qui doivent nous donner une indication d'une inflexion sensible des trajectoires qui nous permettent de se réaligner avec une trajectoire cohérente avec un objectif de 1,5 degré.
Mais vous y croyez, vous, la semaine dernière, lors des débats pour l'adoption justement de la synthèse de ce rapport par les représentants de tous les pays qui ont signé l'accord de Paris, ça a été très chaud, hein, pour dire les choses clairement, au niveau des discussions, notamment il y a eu des blocages de la part de l'Arabie Saoudite, des États-Unis. On est quand même loin d'un engagement à la hauteur de l'enjeu, non ?
Tous les pays ont approuvé ce rapport et l'ont accepté. Tous les pays, y compris ceux que vous avez cités. Donc, s'ils n'avaient pas voulu l'approuver, s'ils n'étaient pas d'accord avec ces conclusions, ils ne l'auraient pas approuvé. Le processus, ça a été quand même de regarder ce résumé pour décideurs ligne à ligne. Il fait 25 pages. Ça nous a pris l'intégralité de la semaine et une bonne partie des nuits parce qu'on est rentré dans le détail et on a senti un vrai intérêt. Donc oui, ce sont des discussions animées. Oui, ce sont des discussions qui sont parfois difficiles, parfois conflictuelles, parce qu'il y a des visions différentes. Mais au final, ce processus-là, c'est un processus où les gouvernements discutent ensemble sur la base de discussions scientifiques. Et au final, ce sont les chercheurs qui ont le dernier mot. Il n'y a rien dans ce résumé pour décideurs qui n'est pas conforme à ce que dit le rapport sous-jacent qui détaille plus la science. Donc ce rapport a une validité scientifique, mais l'objectif des discussions, et pourquoi est-ce qu'elles ont été animées, c'est parce que tous les délégués qui étaient présents étaient soucieux de pouvoir retourner dans leur pays avec la capacité de délivrer un message clair, audible par leurs décideurs, et qui puisse être incorporé dans les décisions. Donc le fait qu'il y ait des discussions animées, ça montre plutôt l'intérêt que portent ces différents pays au sujet et le fait qu'ils prennent au sérieux ce travail autour du 1,5 degré en se disant que ça va vraiment impacter, que ça doit nourrir et impacter leurs décisions concrètes domestiquement.
Merci Henri Wesmann pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chercheur senior au sein du programme climat de l'IDRI et que vous êtes l'un des 86 coordinateurs de ce rapport.
Merci beaucoup.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
semaine, le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, a publié lundi un rapport très attendu sur ce que sera notre monde si nous assistons à un réchauffement de 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Nous en parlions il y a un instant avec Henri Wesmann. Mais la biodiversité dont nous faisons partie, d'ailleurs, elle aussi est très impactée par un demi-degré de réchauffement de plus ou de moins. Bonjour Wolfgang Kramer.
Bonjour.
Vous êtes géographe, écologue, directeur de recherche au CNRS à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, basé à Aix-en-Provence, c'est dans le sud de la France. Vous contribuez depuis plus de 20 ans aux travaux du GIEC. Alors nous dépendons étroitement de la biodiversité pour nous nourrir, pour respirer, pour avoir de l'eau. Et je le disais rapidement, hein, un demi-degré de réchauffement du climat de notre planète de plus ou de moins, c'est ce qui ressort en tout cas de ce rapport, ça peut avoir des conséquences extrêmement importante.
Oui, effectivement. Et ça, quand nous parlons de la biodiversité, nous parlons d'un sens large. Ce n'est pas juste les espèces qui disparaissent ou qui vont voir leur aire de distribution réduite, mais on parle aussi de la biodiversité dans les systèmes agricoles et dans les systèmes marins sur lesquels nous dépendons comme espèce humaine assez directement. Et sur ces côtés-là, effectivement, le rapport est nouveau parce que c'est le premier rapport qui a analysé plus précisément la différence entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement par rapport au pré-industriel. Et il a constaté que les conditions environnementales qu'ils vivent, les espèces, changent de façon importante entre ces deux niveaux, même si c'est qu'un demi-degré. Par exemple, le nombre des canicules, les sécheresses ou la profondeur des sécheresses va augmenter d'une façon importante entre 1,5 degré et 2. Et c'est pareil en mer, que les périodes avec des températures particulièrement élevées vont donc augmenter d'une façon importante.
Alors c'est vrai que le rapport pointe qu'il y aura deux fois plus d'animaux vertébrés, trois fois plus d'insectes, deux fois plus de plantes qui perdront plus de la moitié de leur aire naturelle de vie avec 2 degrés par rapport à 1,5. Et alors les conséquences évidemment du réchauffement sur la biodiversité affecteront, vous le mentionnez, de nombreux secteurs économiques. Le rapport en parle très clairement. Les pêcheries par exemple verront leur chiffre d'affaires bien affecté.
Oui, tout à fait. Ben, il faut d'abord constater que les pêcheries, actuellement, ils sont déjà impactés par le réchauffement, mais ils ont plutôt impacté par la surpêche. Donc, c'est un secteur qui est déjà dans les grosses difficultés. Mais c'est vrai que le réchauffement, en combinaison avec l'acidification, ça risque à perturber le réseau trophique et rendre encore plus possible d'avoir des poissons dans des quantités suffisantes.
Oui, les prises annuelles pourraient baisser de 1,5 million de tonnes avec un réchauffement à 1,5 degré et de plus de 3 millions de tonnes avec un réchauffement à 3 degrés. Et les grandes cultures céréalières aussi, dont dépend la subsistance de milliards d'individus, seront elles aussi moins affectées, évidemment, si le climat se réchauffe moins. C'est notamment le cas en Afrique subsaharienne.
Oui, effectivement, on a toujours constaté que le réchauffement lui-même pose problème pour beaucoup de cultures, particulièrement pour le riz, et on peut, avec 2 degrés de réchauffement, arriver à un niveau qui devient critique pour ces cultures dans beaucoup de régions. Mais le plus grand problème, c'est les sécheresses qui affectent des régions beaucoup plus importantes à 2 degrés que c'est le cas pour 1,5 degré.
Alors, pour éviter le pire, les chercheurs ont calculé qu'il fallait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre commencent à décroître bien avant 2030, en baissant d'ici 2030 d'au moins 40% par rapport à leur niveau de 2010. Est-ce que c'est jouable, selon vous, puisque les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017 ?
Oui, en fait, la jouabilité ou la faisabilité, c'est un sujet particulièrement traité dans ce rapport-là. Il faut faire une distinction très claire entre la faisabilité physique et biologique du système Terre, où c'est tout à fait possible de s'imaginer qu'un arrêt total des émissions de gaz à effet de serre va nous faire éviter un réchauffement de plus qu'un degré et demi. Autre question, la faisabilité sociétale, économique, technologique, elle est des plus difficiles à y répondre, et les économistes nous disent actuellement que même si on peut faire des des très grands progrès vers une transformation de notre système énergétique, on ne va pas être capable dans quelques années de réduire nos émissions à l'effet zéro. Je pense que la conclusion pour la société, c'est qu'il ne faut pas attendre la technologie, il faut utiliser tous les moyens possibles de changer le comportement et en fait il faut décarboniser absolument tous les aspects de la société, de nos fonctionnements et chaque kilo de CO2 qui est évité va nous amener dans le bon sens. Où est-ce qu'on arrive à la fin, ça dépend effectivement de l'effort fait par la société.
Merci beaucoup Wolfgang Kramer pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup madame.
RFI.
Overwhelming consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term it will have a significant damage.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children in the world.
Des questions, des réactions. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries the rays of the sun have warmed
and start to prepare.
C'est pas du vent, l'émission environnement de RFI. Nous parlions juste avant la pause musicale du dernier rapport du GIEC qui nous incite à un véritable sursaut pour enrayer les changements climatiques. Or, 20% des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines proviennent de la dégradation des forêts. Alors à ce sujet, il y a ceux qui alertent, puis il y a ceux qui agissent. Bonjour Chani.
Bonjour.
Vous faites partie de la deuxième catégorie. Marquez, vous alertez aussi, et ça fait 20 ans, puisque avec votre association Calaouette, vous vous battez depuis 20 ans pour tenter de sauver les gibbons et leur habitat à Bornéo. Alors Bornéo, peut-être, et à Sumatra d'ailleurs.
Bornéo, Sumatra, donc en Indonésie.
Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un peu Bornéo, Sumatra? Ce sont des endroits où peu de gens vont en fait.
Oui, alors bon, l'Indonésie... sur l'équateur, donc c'est un environnement avec des grandes forêts tropicales, humides.
Il en reste donc ?
Il en reste, mais elles sont évidemment attaquées par cette industrie qu'on connaît malheureusement trop bien, l'huile de palme. Mais ce qui rend unique l'Indonésie et Sumatra et Bornéo, c'est le fait que ce soit des îles et du coup avec des espèces endémiques qu'on ne trouve là-bas, aussi bien de la flore, la faune, des animaux extraordinaires, une biodiversité exceptionnelle.
Et donc vous vivez là-bas depuis 20 ans
maintenant.
C'est un choix personnel.
C'est un choix personnel. Je suis parti à 18-19 ans. Et donc pour sauver les gibbons et essayer d'apporter ma petite pierre pour la préservation de leur habitat.
Et donc 20 ans plus tard, quel bilan faites-vous ?
Alors 20 ans plus tard, à l'échelle de mon association, elle est beaucoup plus grande que ce que j'avais pu imaginer. On a sauvé énormément d'animaux, pas que des gibbons, puisque sur place, face à la déforestation, certes les gibbons en sont victimes, mais aussi tous les autres animaux, toutes les autres espèces. Donc on a sauvé plus de 1200 animaux, par exemple, passés par nos centres. Et ça, ce sont des animaux vraiment qu'on a réhabilités. Il y a aussi tous ces animaux qui sont rentrés en conflit avec les villageois lorsqu'il y a encore une fois une perte d'un habitat. On a des animaux qui se retrouvent au milieu de villages, donc on doit attraper ces animaux pour les relâcher dans des zones sûres. Plus de 700 gibbons. Mais en termes de chiffres, bon, il y a tous ces succès, je dirais, mais par exemple, pour le gibbon, ça reste quand même un échec, puisqu'en termes de relâcher, on n'en est qu'à une cinquantaine. Pourquoi ? Parce que les gibbons sont extrêmement territoriaux et ils ne peuvent pas se partager une forêt plus petite. Donc on a plein d'animaux qui peuvent être réhabilités ou relâchés aujourd'hui. Il y en a plus de 314 à l'heure où je vous parle dans nos centres, aussi bien à Bornéo qu'à Sumatra. Sauf que dans les forêts restantes, il y a déjà trop de gibbons à l'intérieur, puisque tous les gibbons qui se trouvaient aux alentours dans des zones qui ont été déforestées, se réfugient dans ces fragments restants et du coup il y a une surpopulation et comme ils sont territoriaux, ils sont déjà en train de s'entretuer. D'où mon initiative pour essayer de geler et de protéger ces fragments de forêt qui restent en achetant les terrains.
Oui, parce que les gibbons vivent en couple et ils ont besoin quoi, en moyenne de 12 hectares, c'est ça ?
Ouais, à peu près, mais ça dépend, ça dépend de la qualité de la forêt. C'est 12-15 hectares dans des forêts primaires de très bonne qualité, mais dès que la forêt est dégradée, ces territoires s'agrandissent. Et dans les forêts de tourbières, notamment, même naturellement, c'est des territoires qui font plus de 40 hectares. Donc voilà, beaucoup d'espace pour un couple et leur enfant.
Et alors, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur ces animaux ?
Sur les gibbons comme sur l'ensemble de la biodiversité indonésienne, c'est la conversion de ces forêts pour les plantations de palmiers à huile. C'est vraiment
On va y revenir dans un instant, mais au-delà de ça...
Au-delà de ça, ensuite, c'est les animaux détenus comme jouets vivants. Mais c'est vraiment lié aussi à la déforestation. Je suis obligé d'y revenir parce que le profil du braconnier qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, la personne qui rentre dans la forêt avec son fusil pour capturer un bébé gibbon en tuant sa mère, n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, c'est l'ouvrier de la compagnie qui, au moment de la déforestation, capture les animaux.
Alors, la Malaisie et l'Indonésie qui se partagent Bornéo, vous le dites, ont des rythmes de déforestation effrayants. Vous le voyez concrètement sur le terrain tous les jours. C'est, je crois, la moitié de la forêt primaire indonésienne qui a disparu en 50 ans.
Oui, ça doit être ça. Sur l'échelle de Bornéo, c'est plus.
C'est l'équivalent de 6 terrains de football de forêt qui disparaissent chaque minute. C'est ce qui est écrit sur votre site.
Oui.
Ça fait beaucoup.
Ouais.
Et alors, vous pointez, vous, directement la responsabilité de l'industrie de l'huile de palme, cette huile bon marché qu'on retrouve donc dans nos gâteaux, nos chocolats, nos savons, nos dentifrices et aussi nos voitures. Et c'est un sujet qui fait débat en France depuis le mois de mai, depuis le feu vert accordé par l'État à la bioraffinerie de Total dans les Bouches-du-Rhône qui carbure depuis cet été à l'huile de palme pour produire 500 000 tonnes par an de biodiesel. Une polémique résumée par le youtubeur L'Oreille de Tatu.
Depuis quelques jours, en ce mois de juin 2018, de nombreux agriculteurs ont bloqué des raffineries et des dépôts de carburant.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont en colère que le gouvernement n'ait pas voulu empêcher Total d'importer ses 300 000 tonnes d'huile de palme par année. Une huile de palme qui est faite pour faire du biodiesel, une sorte de biocarburant.
Le biocarburant, quel joli mot pour nous faire passer la pilule.
Le biocarburant est en fait utilisé dans les moteurs diesel ou dans les moteurs essence. Depuis 2009, une loi européenne impose aux États membres d'adopter au moins 10% de biocarburant dans l'énergie totale utilisée dans les transports d'ici à 2020. Super, le but étant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le seul petit truc, c'est que le biodiesel pollue 3 fois plus que le diesel normal. Et alors, pourquoi ça pollue l'huile de palme ? Produite principalement en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, les plantations de palmiers à huile ne cessent de s'étendre. Près de 30 millions d'hectares aujourd'hui, soit beaucoup plus que la surface de la Nouvelle-Zélande. Les agro-industriels du secteur coupent et brûlent les arbres en masse, et une déforestation de masse provoque de nombreuses émissions de gaz à effet de serre. Entre 2011 et 2013, par exemple, c'est l'équivalent de la surface de l'Irlande qui a été brûlée. 4 millions d'hectares de forêts sauvages en Indonésie sont en train, en ce moment même, d'être ravagés. Ayant connaissance de ces faits, Total préfère l'huile de palme qui tue la planète que l'huile de colza à la française. Total, qui on le rappelle, n'a pas payé d'impôts ici en France jusqu'en 2015 et a réalisé un bénéfice net l'année dernière de 8,6 milliards de dollars. Tu vois où je veux en venir ?
Eh oui, on voit bien, nous, ici, dans C'est pas du vent. Donc, L'Oreille de Tatu qui résume cette polémique en France qui importe de l'huile de palme pour faire des biocarburants au lieu d'utiliser les céréales locales. Tout ça pour, finalement, des intérêts de marché que l'on voit bien dans la presse locale.
C'est ça, c'est les décisions politiques. Et on voit aussi la France qui cède aux pressions des géants d'Asie du Sud-Est, dont fait partie l'Indonésie aujourd'hui. L'Indonésie a commandé plus de 200 Airbus à l'Europe et fait un chantage aux Airbus à l'Indonésie, vous prenez notre huile de palme, sinon on annule notre commande. Et la Malaisie fait la même chose pour les Rafales. Et à la différence que moi en Indonésie, je vois l'Indonésie qui s'en vante dans les médias de cette position-là, ce bras de fer, puisque ça donne un rayonnement à l'Indonésie là-bas. Et c'est une réalité, voilà, la décision est politique. 50% de l'huile de palme aujourd'hui en Europe sert aux agrocarburants. 50%. Et le pire, c'est que c'est un déni de démocratie, puisque vous êtes obligé, si vous avez une voiture diesel, quand vous allez à la pompe, vous n'avez pas le choix. Vous mettez de l'huile de palme dans votre moteur. Autant vous pouvez essayer dans un supermarché de prendre
on peut manger des gâteaux, des shampoings.
Exactement, on peut faire une sélection.
Exactement,
et l'essence, on nous l'impose.
Et, ouais.
On nous l'impose. Donc, ça, c'est un réel problème et on voit vraiment que c'est des décisions politiques, du coup.
Et sur le terrain, donc vous voyez quotidiennement les conséquences de cette exploitation d'huile de palme. Donc ça se traduit comment ?
Ça se traduit par une conversion de la forêt, c'est-à-dire qu'il ne reste plus un seul arbre. La forêt laisse place à une monoculture. Alors, si je vous parle de singes, tous les singes évidemment disparaissent. Si je vous parle des oiseaux, dans une forêt primaire à Bornéo, il y a 220 espèces d'oiseaux. Il n'en reste plus qu'entre 10 et 15 dans une plantation d'huile de palme. Ça vous donne une idée. Et puis là, j'entendais, j'ai vu une dépêche hier ou avant-hier, je crois, que Nestlé allait, par exemple, surveiller les compagnies où elles s'approvisionnent avec des images satellites pour voir si les compagnies déforestent pas. On se fiche de nous en nous donnant des informations de ce genre, puisque, évidemment, de toute façon, ces concessions, elles ont été attribuées, elles ont certainement déjà été déforestées il y a déjà pas mal de temps, mais surtout, la déforestation active aujourd'hui a lieu en dehors des concessions officielles pour l'huile de palme, c'est-à-dire que ce sont des propriétaires terriens aux alentours des concessions qui déforestent, financés par les compagnies, mais les compagnies peuvent se laver les mains. Et lorsque, comme à l'heure actuelle, puisqu'on est en grande période sèche à Bornéo et il y a des incendies, donc ce sont dans ces zones-là que la forêt brûle pour être convertie au plus vite possible. Et les compagnies disent, regardez ces panneaux, regardez les images satellites, ce n'est pas dans nos concessions, ce sont les villageois. Sauf que ces gens-là, à un moment donné, ils vont vendre leurs grappes de leurs palmiers et ils vont les vendre aux compagnies d'à côté.
Oui, parce que localement, on ne consomme pas d'huile de palme, ou très peu peut-être.
Si, l'huile de palme est consommée dans tous les foyers indonésiens comme huile de cuisson, hein, mais ce n'est pas du tout ça la raison de la déforestation à grande échelle de l'Indonésie. Et à ce sujet, il faut noter que le prix de l'huile de palme en Indonésie est cher, parce qu'on dit aux populations locales, à pénurie, parce que tout part à l'export.
Oui, donc là, on marche vraiment sur la tête.
Exactement.
Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui savent quand même que c'est un caillou dans leurs chaussures, parce qu'il y a beaucoup d'ONG, il y a vous notamment, qui alertez sans arrêt sur les ravages causés par l'huile de palme. Et du coup, on reçoit, nous, par exemple, journalistes, hein, beaucoup de communiqués de presse disant « ça y est, on fait de l'huile de palme responsable ». Ah, ça vous fait rire. Mais on voit Unilever, Walmart, enfin, toutes ces grandes multinationales, Nestlé et compagnie, prennent des engagements pour dire « ça y est, on arrête de déforester, on prend de l'huile de palme durable ». Alors comment on fait pour s'y retrouver ?
Moi je vais faire simple, on n'a pas besoin d'huile de palme durable ou responsable. On a besoin d'une huile de palme qui ne crée pas de déforestation.
Mais comment c'est possible ça ?
Exactement. Aujourd'hui, si à Bornéo on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de déforestation causée par l'huile de palme, ben on arrête de faire de nouvelles plantations. C'est aussi simple que ça.
Ou alors on plante sur des endroits où il n'y a pas de forêt.
Oui, mais le problème c'est que ça a déjà été fait. Et aujourd'hui, si on voit peut-être une déforestation diminuer à Bornéo dans les chiffres, c'est simplement parce que toutes les zones de plaine qui étaient très attractives pour l'industrie de l'huile de palme sont déforestées et ils sont en train de finir malheureusement Bornéo, toutes ces zones attractives. Et ils se lancent vraiment sur la Papouasie. Aujourd'hui, l'enjeu en Indonésie, c'est de freiner cette déforestation massive en Papouasie qui s'installe. Puisque le schéma, ça a été de détruire Sumatra. La forêt restante à Sumatra, c'est sur les reliefs, là où ils ne peuvent pas faire du palmier à huile. À Bornéo, on arrive au même schéma. En Papouasie, ils sont en train de faire exactement la même chose, avant de parler de l'Afrique et de l'Amérique latine, évidemment.
Oui, des endroits du monde qui sont quand même ce qu'on appelle des hotspots de la biodiversité.
Voilà, le palmier a un rendement très faible dès qu'on est en altitude. Et s'il y a une topographie trop accidentée, à l'âge de 3-4 ans, le palmier finit par tomber puisqu'il n'a pas de grandes racines. Donc ils ont vraiment besoin de terrains plats et en basse altitude. Donc c'est toutes ces forêts-là, et notamment les tourbières. Et je vous parlais tout à l'heure des propriétaires terriens privés qui brûlent. On parle de privés, mais qui ont 500-1000 hectares. Et ils peuvent déforester dans les zones de tourbières. Même s'il y a des moratoires, mais tous ces moratoires qui concernent la déforestation en zone de tourbière notamment, ça concerne les compagnies, pas les villageois, entre guillemets.
Et c'est là où il y a une vraie ambiguïté.
Voilà, et moi sur place, je vois les autorités qui distribuent de plus en plus, qui changent le statut des terres, le cadastre, pour faire en sorte que les statuts deviennent des statuts pour les villageois. Alors sur le papier, c'est très bien, parce que ça fait penser à du social, on donne l'opportunité à des villageois d'avoir des petites propriétés, ce ne sont pas des compagnies, sauf que c'est dans cette stratégie-là, et le villageois, encore une fois, entre guillemets, est capable de se payer un bulldozer pendant 15 jours, alors qu'on sait que c'est 500 euros la location d'un bulldozer une seule journée pour faire des canaux, puisqu'il faut drainer l'eau de la tourbe pour pouvoir ensuite la brûler et faire les
plantations. Donc pour vous, en fait, les grandes compagnies sont en train de laisser leur titre de propriété aux paysans pour se
Vous avez une compagnie
en tout cas, à changer d'image à l'international.
Une compagnie a une concession, on va dire, de 10 000 hectares. Donc elle va être très observée sur ces 10 000 hectares. Donc elle fait très attention, entre guillemets. Elle va peut-être avoir un petit îlot de forêt au milieu ridicule pour avoir son label RSPO. Mais tout autour...
Le label RSPO qui est donc le label de l'huile de palme durable.
Soi-disant durable. Et tout autour, eh bien, les villageois, entre guillemets, ou les propriétaires terriens privés vont être poussés à déforester, financés. Et ensuite, elle va pouvoir produire de l'huile de palme sur peut-être le double de sa concession officielle. Mais quand le gouvernement ou la ministre indonésienne des forêts, Siti Nurbaya, donne des statistiques, elle va parler simplement des zones officielles, c'est-à-dire des concessions.
Et alors vous vous battez, on le disait, depuis 20 ans pour sauver les gibbons et leur habitat, donc pour sauver les forêts.
Ouais.
Est-ce que vous y arrivez quand même ? Vous avez réussi à préserver. On sent bien que bon, le travail, évidemment, c'est un peu le pot de terre
contre
le pot de fer. Mais...
Moi, depuis que je suis devenu indonésien, puisque j'ai la nationalité indonésienne, je fais exactement le même travail que ces propriétaires terriens qui achètent beaucoup de terres pour faire des plantations. Mais moi, c'est pour protéger la forêt. Donc c'est... À une petite échelle, on en est aujourd'hui à 640 hectares, mais à l'échelle du paysage, c'est déjà grand. Si vous arrivez sur place, vous verrez toute cette biodiversité sauvée, ces arbres, ces animaux. Et c'est quelque chose que je veux intensifier, accélérer. Et donc évidemment, il y a deux scénarios après 20 ans passés à Bornéo où on baisse les bras, puisqu'on a été témoin d'une déforestation massive. J'ai vu le visage de Bornéo être défiguré par ces rangées de palmiers. Ou alors on regarde ce qui reste, et il reste de belles choses à Bornéo. Il y a encore un combat à mener, il y a encore des choses à sauver. Et du coup, il faut surtout pas baisser les bras, surtout pas être pessimiste, surtout pas se dire qu'on n'y arrivera pas, parce que sinon on ne se donnera pas les moyens de sauver ce qu'on a encore à sauver. Donc,
Et vous vous appuyez d'ailleurs sur une partie de la population, vous avez créé une radio, les gens alertent.
Je m'appuie surtout sur la population. Il faut savoir que les populations de Bornéo, les Dayak, les ethnies Dayak, ne veulent pas voir cette huile de palme parce qu'on leur impose. Au bout d'un moment, certains commencent à travailler dans les plantations parce qu'il ne reste plus que ça. Mais les Dayak vivaient d'une économie d'agroforesterie, de plants d'EVA mélangés à la forêt, de rotin, etc. Et donc on a le soutien. Moi, sur ma radio à Bornéo, on diffuse des messages très très virulents contre l'huile de palme. Si les populations étaient pro-huile de palme, ils m'auraient mis un coup de pied dans les fesses depuis bien longtemps. Et c'est pas le cas. Donc toutes ces victoires, mes terrains achetés, protégés, le sont grâce aux populations alentour.
Mais on entend souvent aussi le fait qu'en Indonésie, il y a une classe moyenne qui est née grâce à ce commerce de l'huile de palme. Donc que ça crée des emplois,
moyenne.
Ça crée de la richesse sur place.
Mais, et moi, sur place, pourquoi on arrive à avoir ce positionnement aussi marqué? C'est que je peux vous emmener dans des villages où il y a l'huile de palme depuis 30 ans. Ou 40 ans, donc les premières vraiment très grosses compagnies à Bornéo, et vous verrez que ces villages-là ne sont pas du tout les plus riches. Et donc c'est le meilleur argument, et les gens là-bas le savent. Donc cette classe moyenne, il faut quand même me l'illustrer sur place. J'ai du mal à croire qu'il y a des infrastructures qui se sont développées grâce à l'industrie de l'huile de palme. Oui, des routes qui ont été créées, c'est vrai, parce qu'il faut faire en sorte que cette huile de palme brute, pour qu'elle soit envoyée vers la raffinerie de Total, à un moment donné, il faut qu'elle parte sur un bateau, il faut qu'elle d'abord sur un camion. Mais encore une fois, les gens à l'intérieur, là je reviens, il y a encore 3 semaines, j'étais dans notre projet à Sumatra où on relâche des animaux. Il y a des orangs rimba, c'est l'ethnie nomade de Sumatra, qui ont perdu leur forêt, on leur appose une mendicité dans les plantations d'huile de palme parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont perdus. Et c'est ça la réalité. Donc on me dise d'une classe moyenne, alors par exemple à Bornéo, il faut bien avoir en tête que les gens qui travaillent, très grande majorité des gens qui travaillent dans les plantations ne sont pas du tout donc des gens de Bornéo, sont des gens qui viennent de Java. C'est vrai, des bidonvilles, des grandes villes de Java qui sont envoyés à Bornéo en leur disant voilà, on va tout vous payer, on va vous payer une maison, on va scolariser vos enfants gratuitement. Et ils se retrouvent dans des camps. Au cœur des plantations, au milieu de nulle part. Hein. Vous êtes à 200 km de la première ville, scolarisé sur place, au plus près des palmiers, ça arrange tout le monde, puisqu'ils sont là au pied des palmiers. Et puis vous avez des gamins qui vont récupérer les grappes avec leurs parents. Et c'est pour ça, notamment, que certains ont été épinglés par Amnesty International pour le travail d'enfants. Et c'est une réalité, parce que tout le monde est au cœur des palmiers. Et donc, oui, c'est aussi un très gros problème social.
Et alors du coup, les gibbons au milieu de tout ça, évidemment, souffrent largement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'ils sont toujours menacés de disparition ?
Ils sont plus que jamais menacés de disparition. la situation est pire qu'il y a 20 ans, si on regarde l'Indonésie de manière générale. Après, il faut aussi se dire qu'il y a des zones protégées dans la loi en Indonésie, il y a des parcs nationaux, il y a des réserves. Il faut simplement faire en sorte qu'ils soient réellement protégés sur le terrain. Mais on a déjà des outils pour essayer de sauver et faire en sorte que des espèces disparaissent pas. Même si on parle des orang-outans, il y a des, entre guillemets, le réservoir d'orang-outans, j'aime pas ce mot-là, mais c'est très souvent utilisé en conservation, mais ça veut dire qu'il y a des populations viables d'orang-outans dans des zones protégées en Indonésie, et que si la loi était réellement respectée, que les parcs nationaux n'étaient pas grignotés, qu'il n'y avait pas de braconniers qui rentrent dans ces zones-là, eh bien, on ne perdrait pas les orang-outans sur le très long terme. Donc, moi, je m'attelle, je pense qu'il faut maintenant s'atteler à ce qu'on a réellement sur le papier, tous les outils. On a besoin d'outils pour sauver ce qu'on a là-bas. Acheter les terrains, c'est un des outils. S'assurer que les zones déjà protégées dans la loi le sont réellement sur le papier. On le fait pour une réserve qui fait quasiment 6000 hectares, une réserve d'État qui est proche de Kalawet. Moi, je fais des repérages aériens pour détecter des coupes illégales, des accès à l'intérieur de cette réserve, des compagnies alentour. Donc, s'appuyer sur ce qui existe déjà et surtout arrêter. Pour les auditeurs, s'ils ont, ils entendent dans les médias des grandes ONG qui leur parlent « Sauvez la forêt, sauvons la forêt indonésienne, sauvons l'Amazonie », je vais leur conseiller de s'éloigner un peu de ces discours-là. Par contre, s'ils entendent des projets concrets qui disent « On a 500 hectares à tel endroit et on va les sécuriser, on a 2000 hectares à cet endroit », allez vers ces du concret, du concret, on
du
a besoin
concret,
de ça.
Du concret et pas simplement des grands discours.
Exactement.
Et aujourd'hui, donc vous récupérez ces animaux un peu égarés, vous les soignez, vous en prenez soin et puis vous essayez de les réintroduire.
C'est ça, le but ultime c'est de leur rendre la liberté. Ouais. Alors c'est souvent un très long processus. Si on reçoit un bébé gibbon de quelques mois, il va falloir attendre plus de 5 ans pour avoir l'espoir de le relâcher, puisqu'il faut attendre qu'il soit adulte.
Ils sont monogames. C'est extrêmement long. Hein,
c'est extrêmement long, c'est ce qui est vraiment lié aux primates. Les primates passent beaucoup de temps avec leurs parents puisqu'ils doivent apprendre, et, un peu comme les humains.
C'est étonnant, vous avez changé de regard. Quand on parlait de déforestation, vous aviez les yeux sombres. Maintenant qu'on parle des gibbons, vous avez le regard lumineux.
Oui, ils sont un peu ma raison de vivre et ma raison d'exister. Et quand je protège la forêt, c'est pour eux et évidemment tout le reste de la biodiversité. Mais toutes ces victoires pendant 20 ans, tous ces animaux sauvés, même si c'est qu'un gibbon, mais à l'échelle de l'individu, c'est énorme. On lui donne une deuxième chance, on lui change sa vie. Et ça, moi, me redonne de l'énergie pour continuer à me battre et pas simplement regarder tout ce qu'on a perdu, mais regarder vers l'avant et tout ce qu'on peut encore sauver.
Oui, parce que c'était, et ce sera ma dernière question, en fait, quand on vous entend, on se dit que vous êtes d'un déterminisme et d'une ambition folle, parce qu'autour de vous, c'est quand même un combat complexe à mener.
C'est complexe, c'est dur. Mais encore une fois, quand on arrive à toutes ces petites victoires, sauver un hectare de forêt, sauver un gibbon, sauver c'est tellement une énergie positive et c'est une drogue, quoi. Moi, j'ai envie de vivre ça et de léguer ça à mes enfants, aux générations futures. Et encore une fois, je suis extrêmement frustré de voir si peu de gens réellement sur le terrain faire des actions concrète, arrêter les grands blablas, de plus en plus d'année en année, ça me frustre de plus, ça finit par me mettre en colère, que moi sur place je le fais. Alors on peut me reprocher que c'est simplement 640 hectares parce qu'une compagnie elle va en détruire 10 000. Oui, sauf que si on n'avait pas été là, ils auraient aussi été coupés.
Et vous avez besoin de soutien, toujours. Hein,
voilà, toujours, le site internet, kalawet.org. Et puis pour voir justement nos actions concrètes, ma chaîne YouTube, une vidéo toutes les semaines sur nos activités sur place, sur la chaîne YouTube Shani Kalawet.
Voilà, et on peut participer acheter aussi,
nous aider à acheter, parrainer les animaux, exactement, faire partie d'un projet.
Et puis il y a de très belles photos, en tout cas. Merci beaucoup, Shani, d'être venue dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.